Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, facile à poser, qui protège de la canicule. Biofib, ça chanvre tout.
RMC. RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG sur RMC, RMC Story. Les Grandes Gueules tous les jours en direct de 9h à midi. On compte sur vous pour discuter, pour animer nos débats. Et aujourd'hui dans les GG, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, le docteur Jérôme Marty et des nôtres, tout comme l'avocat Charles Consigny. La suite des réjouissances dans les GG. Déjà le jeu dans 11h03, 17 minutes. L'un d'entre vous avec nous en direct qui me fera peut-être ouvrir le coffre ou non. Je vous rappelle que le coffre de Noël, en envoyant coffre par SMS au 732-16, il est là, il est à côté de moi, à l'intérieur des cadeaux. Mais si vous jouez et que vous êtes tiré au sort, d'ores et déjà, vous avez gagné la Nintendo Switch et le jeu Mario Kart 8 avec deux volants Switch. Cadeau pour toute la famille. Si vous me faites ouvrir le coffre, c'est soit la PS5, soit la PlayStation Classic Mini. C'est la première qui est sortie en 94 en version mini. Et ce n'est pas tout, puisque le Père Noël peut aussi avoir laissé un petit chèque, une petite tirelire avec des bons qui vont de 500 à 2500 euros. Alors, vous faites comme vous voulez. Rendez-vous à 11h20 en direct. Vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16. On a un GG 7 et match tout à l'heure à propos de ce que préparent les syndicats contre la réforme des retraites. Ils veulent bloquer le pays. Appel à la grève. La grève SNCF, Air France, les transports, les administrations. Alors, est-ce que bloquer la France, c'est le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui et d'obtenir gain de cause? On a une équipe qui dit oui, Kaouter et Olivier, une équipe qui dit non, Charles et Jérôme. Et vous venez de partager tout ce beau monde. En attendant, c'est le à vous de choisir.
RMC, les Grandes Gueules.
À vous de choisir.
Oui, mais on va pas dire la même chose.
Et vous avez choisi de parler du Covid, ou plutôt de dire que le Covid aujourd'hui, mais vous vous en battez les flancs. Non, mais c'est...
J'ai eu peur.
Non, vous en battez, battez
les flancs. Parce que je me suis dit, Francky Vincent, ça y est, dans l'esprit d'Alain Marchal, ou dans la tête d'Alain Marchal.
Le Covid vous fait-il encore peur? C'est le sujet que vous avez choisi, vous vouliez que nous abordions ensemble. Au 32-16, justement.
Bah, on peut le regretter, mais effectivement, les Français n'ont plus peur du Covid. Pourquoi je dis ça? Parce que on voit que la campagne de vaccination ne fonctionne plus, notamment chez les plus âgés. Alors, chez les jeunes, c'est normal, mais chez les personnes âgées, on n'arrive pas à les faire vacciner comme on devrait les vacciner, cette fameuse quatrième dose. Donc, sans doute parce que ces personnes âgées n'ont plus peur du Covid. Et puis, c'est vrai que le vaccin a désormais mauvaise presse. Quand vous parlez autour de vous, on vous dit quoi? Bah, de toute façon, ça n'empêche pas la transmission du virus. Je l'ai eu, j'étais pourtant vacciné, etc. Donc c'est vrai que le vaccin moins efficace face à Omicron a perdu un peu de sa superbe. Pour toutes ces raisons, les Français n'ont plus peur du Covid. Ont-ils raison de ne pas avoir peur? Je pense que Jérôme Marty va nous dire que non, parce qu'il y a encore des gens qui peuvent être hospitalisés, qui peuvent faire des formes graves. Il y a aussi toujours le problème de l'hôpital qui n'a pas été résolu, donc il n'y a pas suffisamment de place. Donc voilà. Mais je crois que factuellement, on peut dire qu'effectivement, les Français n'ont plus peur du Covid.
32-16, hein, pour nous le dire dans les GG, dans les Grandes Gueules. Jérôme.
Je crois que c'est pas une question de peur, c'est une question d'une part de méconnaissance par un abandon total de la santé publique, comme d'habitude, quoi. On a passé le Covid par pertes et profits, on a fait comme s'il n'existait plus du tout. On a dit, ouais, il y en a marre, il faut passer à autre chose, etc. Mais le virus, il s'en fout. Le virus, il regarde pas les modes, il regarde pas si vous en avez marre, si vous en avez pas marre. Il est là. Et factuellement, il circule plus en ce moment. Parce que c'est des vagues, et on le sait, en gros, toutes les 6-8 semaines, on a une poussée. Là, cette poussée, il se trouve qu'elle arrive en même temps que la grippe et la bronchiolite. Dans une dynamique climatique qui fait qu'il pleut beaucoup, il fait froid, on est plutôt dedans, des organismes qui sont plutôt épuisés, et donc une favorisation des infections. Et effectivement, une politique vaccinale qui a été laissée au bord du ruisseau, des gens qui vous disent « mais le vaccin n'est pas efficace », oubliant que le rôle du vaccin, c'est de protéger contre les formes graves, oubliant que quand il a été constitué sur la première souche, il protégeait des contaminations, qu'il protège encore des contaminations. Vous êtes quand même moins contaminant quand vous êtes vacciné. C'est vrai que vous pouvez attraper la maladie, c'est vrai que vous pouvez la donner en quelque sorte, mais globalement quand même ça vous protège plus que si vous ne l'êtes pas. Mais surtout ça vous évite des formes graves. Or, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui ont fait leur rappel, leur premier rappel il y a plus de 6 mois et qui donc ne sont pas protégées contre un BQ1.1 qui peut les envoyer effectivement à l'hôpital. Et puis surtout, c'est là-dessus que je voudrais insister parce qu'on n'y pense pas, mais 10% de Covid long, quoi. Moi, je n'arrête pas dans ma patientèle de voir des gens qui me disent, j'arrive pas à m'en sortir. Je monte deux étages, je suis essoufflé. J'ai mal à la tête en permanence. Une espèce de lassitude qui s'installe avec une espèce d'aquabonisme qui fait que les gens eux-mêmes te disent, mais j'arrive, je trouve du goût à rien.
Ah oui.
Et on sait que ça fait partie des symptômes aussi du Covid long, cette espèce de
Donc, ne le prenons pas à la légère, même s'il est beaucoup moins létal,
et puis enfin, juste dernière chose, cette pathologie, malheureusement, n'est pas immunogène. Ça veut dire que quand tu attrapes la maladie, on te dit, mais vous êtes vacciné en quelque sorte par le virus que vous avez attrapé. Oui, mais ça dure que 3 mois. C'est encore plus court. Non, 6 mois, c'est avec le vaccin. 3 mois, quand tu as attrapé la maladie, c'est encore plus court. Et la multiplication des infections, moi, je suis incapable de dire ce que ça fera dans 10 ans, dans 20 ans. Je sais pas. Je ne sais rien. Est-ce qu'il y aura des séquelles? Est-ce qu'il y aura pas? Je ne sais pas. Donc, ce que je dis, là, ce n'est pas le vaccin, mais là, pour le coup, c'est le fait que quand on est les uns sur les autres en milieu clos, ben, c'est porter le masque pour protéger l'autre, parce qu'à côté de moi, je ne sais pas si ce n'est pas quelqu'un qui a une maladie. Tu as une
baisse de l'immunité, crainte ou pas, franchement?
Non.
Non. Voilà. Donc,
c'est
autre chose.
Non, moi, je pense que je l'ai dit depuis le départ, et même si j'étais très craintive au départ, qu'il faut vivre avec ce virus, qu'il faut laisser les gens être responsables de leur vie et de celle de leur entourage. Je suis pas sûre, moi, je suis pas médecin, mais en tant que malade, parce que je l'ai chopé en prenant des précautions maximales, je suis sûre que le vaccin n'est pas efficace, mais je suis pas sûre aussi de l'efficacité des masques. Et je crois que, voilà, la dictature, c'est fini, tu vois, du premier Covid. Non, mais oui, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais dans le métro ce matin, des gens qui le portent, des gens qui le portent pas, pareil, dans le train. Les gens sont responsables pour arrêter les infantiliser. Enfin, je veux dire, on n'est pas la maternelle, tu vois. Ça a été traumatisant dans les écoles pour certains enfants. Voilà, je crois qu'en fait, on va vivre avec et on va pas rester masqué comme en Asie, ad vitam aeternam. On se moquait d'eux et maintenant on fait pareil. Donc voilà.
Non, dit ça.
Celui qui se sent fragile, il porte le masque. Celui qui a peur de contaminer sa grand-mère, il porte le masque.
Je pense que je prends le pari que le masque va redevenir obligatoire.
Ouais. C'est insupportable.
On nous prépare là. Ouais. Là c'est tellement.
Mais c'est insupportable.
Ils nous l'ont fait à chaque fois.
Dans les transports.
Oui, mais ils nous l'ont fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'on commence à en parler de plus en plus. On dit voilà, le Covars dit oui, c'est une décision politique, mais ça serait quand même bien de le faire. François Braun, dans un premier temps,
moi j'espérais notre position de monsieur Braun.
Sanitaire. Or, le COVARS va devoir rendre un nouvel avis là, dans les jours qui viennent. Et François Braun a déjà prévu une conférence de presse vendredi. Ouais. Moi, je mets un petit billet sur cette conférence de presse
vendredi. Souvenez-vous, dans les trains, la police des bouteilles d'eau.
Oui.
Souvenez-vous.
Des chips.
Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de la fermeture du bar dans le train et du contrôleur.
Mettre le masque entre deux bouchons.
Moi, j'avais eu une fois, par exemple, une contrôleuse qui tenait absolument. Ils ont installé des portiques à l'entrée des quais. Je vois pas l'intérêt de recontrôler les gens dans le train. Premier sujet. Mais bon, peu importe. Portique inutile. Avant, justement, ce qui était beau, c'est qu'on pouvait monter dans un train au dernier moment. On n'avait pas de billets, c'est pas grave. Quand la France était encore un pays moins névrosé et triste. Qui tenait absolument la contrôleuse. Alors que j'étais en train, mon masque sur mon menton, de boire une gorgée d'eau, elle tenait à me dire qu'à l'issue de ma gorgée d'eau, j'allais bien devoir remettre mon masque. Et je dis, ah bon, madame? Ah, mais écoutez, je vous remercie de m'avoir donné cette information, parce que ça m'avait complètement échappé. D'ailleurs, vous voyez, je le mets sur le menton, mais c'est parce que ça me tient chaud. Je voilà. Et très énervée, la contrôleuse. Ah non, mais monsieur, nanana. Et je dis, vous me dérangez en fait, vous êtes en train de m'entreprendre, etc. Vous me dérangez, j'ai payé mon billet une fortune pour payer vos moins de 35 heures hebdomadaires de travail, mais vous me dérangez sur ce masque alors que vous savez que je vais le remettre.
Vous êtes assez populaire dans le train.
Et donc je lui dis, mais vous êtes névrosé, vous avez un problème. Et donc, mais heureusement que les gens se sont dans leur majorité soignés de cette névrose collectif qui était abominable. Le contrôle de chacun par chacun. Les gens qui surveillent, est-ce que t'as bien mis ton masque, est-ce que t'es vacciné, est-ce que machin.
C'est tout l'inverse.
Mais non, mais stop de
raison, Charles.
Moi, je suis désolé, mais si on nous impose de nouveau le masque, moi, j'invite les gens à désobéir.
Désobéissance civile.
Soyez des citoyens libres, arrêtez de vous laisser gouverner par ces gens qui sont même pas foutus de vous assurer de l'électricité en hiver. Ce sont des incompétents absolus auxquels vous ne devez aucun compte. Et donc, qu'on nous foute la paix que Braun et compagnie qui ont peur de mise en examen fantoche,
ça,
d'enquête fantoche, de risque pénal qui n'existe pas. C'est des gens. Mais
Edouard Philippe, il avait à peine quitté Matignon qu'il était mis en examen.
On prend les paris.
C'est un peu bizarre,
on prend les paris que ça ne donnera rien. Ni pour Philippe, ni pour Buzyn, ni pour Salomon.
Mais reconnaît que la judiciarisation de la vie politique est une connerie.
Elle est
condamnée.
On peut reprocher tout à Edouard Philippe. On peut reprocher aussi beaucoup de choses à Agnès Buzyn, peut-être d'avoir quitté le ministère de la Santé pour brillamment se faire battre à Paris, mais d'avoir des poursuites judiciaires. On est le seul pays au monde à poursuivre judiciairement ceux qui ont géré le Covid. Ça a été géré bon an, mal an, partout comme ça. On a hésité, il n'y a pas un
Olivier,
pays.
Olivier, si je peux répondre.
C'est pour ça que ça ne donnera rien.
Olivier, si je peux répondre.
Mais tu sais, le fait qu'il y ait des plaintes, maintenant les politiques mettent des parapluies. Et là, François Braun,
et
je mets un parapluie parce qu'il a peur d'être
poursuivi. Et je finis, cher docteur Martin, qui veut me répondre, en un mot. On a maintenant les outils pour permettre aux personnes qui sont exposées à un cas grave de Covid, on a les outils pour qu'ils se protègent. Le vaccin, le masque FFP2 qui protège des agressions extérieures et tous les gestes barrières avec lesquels on nous a bassinés pendant des mois et des mois. Donc maintenant, je dis stop.
Alors, Marty et puis on a Gérald au 32-16.
Le seul truc, c'est que la situation a fondamentalement changé. Vous dites tous, il faut virer le virus. Mais virer le virus, c'est précisément ça. C'est-à-dire que quand on est sur une très forte poussée, comme c'est le cas actuellement, parce qu'elle est très sous-estimée, parce que les gens font des autotests et donc ils ne rentrent pas dans les statistiques. Et donc, on ne sait pas exactement combien il y a de cas.
On peut
supposer qu'il y a beaucoup de cas. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que, encore une fois, le problème est collectif. Moi, quand je prends le métro, je ne sais pas si à côté de moi, la personne n'a pas une pathologie.
Mais elle le sait.
Elle
se vaccine. Et si elle ne le fait pas, c'est sa responsabilité. C'est pas de la tienne.
Alors, je vous prends un autre exemple.
Je
suis en voiture sur une longue ligne droite du Gers. J'ai une vue à 1 km. On me fout la limitation à 90 et ça m'emmerde. Parce que j'ai une visibilité. Je me dis, après tout, je vais accélérer. Arrive un minot qui est sur un scooter, qui donc est plus fragile que moi et qui donc à l'évidence devrait se protéger et mettre son casque. Et ce con, il a pas mis son casque. Et il me passe devant.
Et moi, comme je
roule trop vite, je peux pas freiner et je lui rentre dedans. Tu mets ton masque.
Donc, tu mets tous les paramètres
à côté de moi. Non, mais
quand t'as côté de moi. Truc qui arrive jamais en fait.
Mais si tu me laisses pas finir.
Dans ce cas-là, on sort pas de chez soi.
Si tu me laisses pas finir.
Et on prend aucun risque.
À côté de moi, peut-être chez quelqu'un qui a une pathologie qui fait que son immunité est basse.
D'accord.
Et qui ne met pas son masque et qui a tort de ne pas le mettre.
C'est sa responsabilité. C'est pas la responsabilité.
C'est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité de tous.
Ensuite, deuxième chose, on mange, on baisse plus, on reste à la maison, mais précisément, ce que je te dis, c'est que quand on est sur une forte poussée pendant quelques temps,
on joue collectif.
Ça a duré 3 ans. Alors,
deuxième chose, les Covid longs, tu fais quoi?
Les vagues, il y en a toutes les 3 mois.
Les Covid longs, tu fais quoi?
Moi, j'en ai un de Covid long.
Quand t'as 10% des gens qui sont atteints de cette pathologie, qui font des Covid longs,
les gens peuvent se faire vacciner.
Tu fais quoi? Mais le vaccin, tu peux faire des Covid longs. Tu peux faire des Covid longs avec
ça. On va prendre Gérald au 32-16.
Bonjour,
Gérald. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? S'il vous plaît, Gérald, bonjour.
Non. Oui, bonjour à tous.
Commercial dans l'Hérault. Alors, vous faites partie de ceux qui ont peur ou plus peur?
Non, bien sûr, moi je n'ai plus eu peur à partir de 2021. Et aujourd'hui, alors évidemment encore moins, et comme beaucoup de Français. La raison, elle est simple, c'est parce qu'on nous a menti. On nous a menti sur énormément de choses. On nous a menti en fait sur le Covid en lui-même. On nous a menti sur les vaccins. On nous a menti sur la manière dont il fallait que les non-vaccinés en fait se comportent pour éviter d'être de dangereux meurtriers face à une population qui est fragile. Voilà. En fait, si vous prenez l'historique de ce qui s'est passé en 2021 et 2020, si vous écoutez les médecins de plateau qui la manière dont ils traitaient tout ça, vous regardez, vous dites mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et ben en fait on en arrive là. Aujourd'hui on arrive à plus faire confiance aux médecins, on arrive à plus faire confiance à la science, on n'arrive plus à faire confiance en fait tout simplement à l'hôpital. Pourquoi? Parce que l'hôpital, vous le voyez, est complètement submergé d'énormément de choses.
Gérald,
voilà. Non mais sincèrement,
j'entends.
C'est à cause de ça, C'est à cause de ça qu'aujourd'hui les gens se comportent dans l'individualisme le plus total.
Et vous, si demain vous prenez le train ou à Montpellier, vous prenez le métro ou le tram, le tram ou les bus, est-ce que vous mettrez le masque à titre individuel ou pas ?
Alors, je ne le mettrai pas parce que c'est si on ne me force pas à le mettre, mais si évidemment je dois respecter la loi, etc.
Pour
le
mettre,
je le ferai. Mais dans le cas contraire, je ne le ferai pas.
D'accord.
Voilà, je ne suis pas vacciné et je suis très bien comme ça. Aujourd'hui, vous vous étonnez que les gens ne veulent pas faire de quatrième dose parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre, en fait, de tout ce rabassage médiatique qu'il y a eu par le passé et qu'il y a encore aujourd'hui. On recontinue à faire culpabiliser les gens par le port du masque.
Personne ne fait culpabiliser personne.
Non, mais Jérôme, reconnaît qu'il y a un problème de communication.
Merci.
Je l'ai dit depuis le début.
François Braun,
je suis le premier à le dire.
Au lieu de nous dire que son bras ne tremblera pas si jamais il remet le masque, comme si on a l'impression qu'il déclarait la guerre à quelqu'un. Non, il faut qu'il explique précisément où on en est de la vaccination, qu'on ne comprend plus rien. Parce qu'il y a un nouveau vaccin, etc. Il faut qu'il nous explique pourquoi on attrape le Covid alors qu'on est vacciné. Il faut que nous expliquions aujourd'hui.
Je te l'ai dit 100 fois ici.
Pourquoi l'hôpital, il n'y a pas suffisamment de place. Tout ça, il faut qu'il nous l'explique. Au lieu de, effectivement, comme il le dit, notre ami, de culpabiliser les Français sans cesse.
Mais non, mais
merci
sauf
à Gérald.
Sauf que c'est faux, si tu veux.
C'est fini. Est-ce que le Covid vous fait encore peur, oui ou non?
Mais non, tu verras.
C'est la question qui est posée. J'ai l'impression que tout le monde est un peu comme Gérald, qu'on vient d'avoir à l'instant de Montpellier. Voilà, c'est un non à 85%.
C'est pas une mode.
Caroline, Saône-et-Loire, ma chère Caroline, bonjour.
Bonjour.
Caroline, c'est vous qui avez envoyé coffre par SMS au 732-16.
C'est ça.
Alors, vous avez été tiré au sort, vous avez gagné.
Ah bah super.
Alors attendez, parce que c'est maintenant, c'est le choix de Caroline. Donc, vous avez gagné la Nintendo Switch, le jeu Mario Kart 8 et deux volants Switch. Donc, bravo. Félicitations.
Merci beaucoup.
Ça, c'est pour vous et ça mérite quelques applaudissements. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ?
Remettre en jeu.
Est-ce que vous les gardez ou est-ce que vous remettez tout en jeu ? J'ouvre le coffre et c'est soit la PS5, soit la PlayStation Classic Mini, la première sortie en 94, et peut-être les chèques cadeaux du Père Noël. Enfin, c'est compliqué, hein ?
Je remets tout en jeu et j'ouvre le coffre.
Bravo !
Bravo. Alors, dans le coffre, vous gagnez une boîte de post-it.
Et une photo de Jérôme.
Bravo, Caroline.
Nu.
Oui, bien sûr.
Évidemment.
Avec son Père Noël. Juste le
stéthoscope.
Slip Père Noël.
Il l'a mis à un certain endroit.
Ouais, oui. Pour s'écouter battre.
Alors. Bien, on va ouvrir cette boîte.
On ouvre la boîte.
Oui.
Parce que là, on parle de
Caroline. Oui, tu parles de.
Alors. C'est la PlayStation Classic Mini. Bon, c'est un beau cadeau quand même.
Quoi, ça, mais oui,
non,
mais
meubles. Oui. Non, c'est pas bon. Il faut pas mentir.
Tu fais quoi avec ça?
C'est quoi, c'est l'objet collector?
Tu fais rien, ça.
Tu cales l'arbre.
Et on vous rajoute un t-shirt DGG quand même.
Ne dévalorisez pas ce cadeau. Vous savez, pour les puristes, moi, c'est une Madeleine de Proust pour moi.
Oui, bien sûr.
Et oui, c'est un objet collector.
C'était la première PlayStation. Et à l'époque où j'avais des cheveux. Je jouais à cette PlayStation.
C'est peut-être parce que je serais trop jeune de la gagner.
Tu as perdu tes cheveux, peut-être.
Il y avait Lara Croft,
ouais.
Je me souviens. Il y avait Tomb Raider, bien sûr. C'était génial.
Ah oui. Fantasme de tous les hommes à l'époque.
Caroline, félicitations quand même. Vous avez la PlayStation Mini, vous avez les t-shirts des grandes gueules.
C'est normal.
Moi, je trouve quand même que ça fait deux fois de suite que le coffre n'est pas rempli.
En plus, c'est l'anniversaire d'Anaïs et d'Estelle Denis.
Peut-être chez Estelle tout à l'heure, c'est son anniversaire. Tentez le coup, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Vous jouez avec Estelle, vous jouez avec Vincent Moscato, vous jouez avec Jérôme Rotten. Vous jouez avec les shows de RMC. Dans un instant, on va enchaîner avec le GG7 et match. Est-ce que bloquer aujourd'hui pour se faire entendre, c'est la seule solution? Une équipe dit oui, une équipe dit non. Et on vous attend au 32-7.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, tous les jours de 9h à midi, on compte sur vous, toujours pareil, pour animer, pour débattre, pour discuter avec les GG au 32-16. Aujourd'hui, Charles Consigny, Jérôme Marty, Kaouter Ben Mohamed, un avocat, un médecin, une présidente d'association, et ils vont débattre dans le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Le gouvernement va présenter sa réforme des retraites aux alentours du 15 décembre et on aura le même jour une réunion intersyndicale. Mais ces mêmes syndicats ont d'ores et déjà indiqué qu'ils mobiliseraient pour le mois de janvier si le gouvernement maintient son projet en l'état. Alors vous savez que la proposition initiale d'Emmanuel Macron, c'est de repousser progressivement l'âge de départ à 65 ans. Il s'est dit ouvert
un report à 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation. Donc on a les syndicats qui sont déjà dans les starting blocks, ils le font savoir. Janvier, si ça continue comme ça, vous pouvez nous faire confiance, le pays sera perturbé, voire bloqué. Alors, on est dans toujours le même scénario. Est-ce que le blocage, c'est la seule solution pour se faire entendre, pour obtenir gain de cause? Une équipe dit oui, une équipe dit non. L'équipe qui dit oui, c'est Olivier Cahouter. L'équipe qui dit non, c'est Charles et Jérôme. On y va pour l'équipe qui dit oui. Ma chère Cahouter, c'est toi qui as la main. C'est parti, 60 secondes.
Les grèves qu'il y a eu à Total en début d'année nous prouvent malheureusement, et je dis bien malheureusement, que le blocage du pays, même si j'en ai été l'une des victimes ce week-end, que j'ai failli rester bloquée à Paris, sont le seul moyen d'obtenir quelque chose de ce gouvernement, parce qu'on rappelle que c'est une réforme dont personne ne veut, et qu'on ne me dise pas que Macron a été élu par rapport à cette réforme, il n'y a pas eu de campagne. Voilà, c'est l'Ukraine qui a monopolisé le débat médiatique, et il a été élu face aux extrêmes, donc à Marine Le Pen, donc c'est pas une élection qui le grandit. Ceci étant dit, s'il y a cette grève aussi, enfin s'il y a ce rejet de cette réforme, c'est aussi parce que les gens, avant tout, n'arrivent pas à vivre de leur salaire et qu'ils auront à terme une retraite qui sera pas assez, enfin qui ne suffira pas, pardon, aux Français pour vivre de leur salaire, et on va leur demander de... Je l'ai dit la semaine dernière.
10 secondes.
C'est pas grave. 3 de plus. Tu ne peux pas payer tes factures, tu ne peux pas amener tes enfants en vacances. Arrête de me mettre la pression. Tu ne peux pas partir en vacances et en plus, tu vas travailler jusqu'à en crever. Donc les Français veulent pouvoir vivre décemment et vivre après leur retraite décemment aussi. Et donc malheureusement, depuis 1983 je crois, les salaires ne sont plus indexés sur l'inflation. Les gens, oui je sais, le carton rouge, je m'arrête. Bloquez zone. Tout et c'est comme ça que vous obtiendrez ce que vous voulez.
Voilà, bloquez tout.
Voilà, les forces d'inertie se réveillent. Voilà. moi je suis pour le dialogue social, je suis pour l'amélioration des conditions de travail des salariés, je suis contre des sociétés dans lesquelles les patrons et les actionnaires auraient tout pouvoir, je suis pour la participation, je suis pour que les salariés, leurs représentants notamment, aient beaucoup plus de poids dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Mais je constate que la France vit sous le régime d'une menace de grève et d'une réalité de grève permanente. Je trouve ça absolument insupportable, notamment dans des entreprises comme la SNCF qui sont perfusées à coups de dizaines de milliards d'euros par l'argent public et où les salariés, je suis désolé de le dire, ont des conditions de travail tout à fait satisfaisantes. On n'est pas exactement sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde au Qatar.
Oh là là.
Bah oui, je suis désolé. Ils font même pas 35 heures par semaine, Cahouter. Je sais que tu as du mal à reconnaître ce genre de choses, mais renseigne-toi. À la SNCF, ils n'arrivent pas à faire travailler les gens au moins les 35 heures que tout le monde font, que tout le monde fait. Donc, je trouve que ces grèves sont des prises d'otages. Et je pense, pour répondre à la question qui est posée, je pense que il y a d'autres moyens d'avoir du dialogue social. Il y a d'autres moyens de faire valoir des revendications. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il n'y a pas de grève. Et pourtant, les salariés arrivent à dialoguer avec leur direction et à obtenir des améliorations pour les salariés.
Non, mais moi, je ne suis pas pour le blocage, contrairement à Cahouter. Je pense qu'effectivement, prendre en otage les gens, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'il y ait une liberté de mouvement. Et quelle que soit la revendication, il n'y a aucune raison que les gens n'aient pas un train le week-end pour rejoindre leur famille, pour aller travailler. Il n'est pas anormal non plus qu'on bloque des routes pour la cause écologique, comme on le fait en ce moment. Néanmoins, le principe de réalité est là. C'est que les politiques ne cèdent que face au blocage.
C'est ça.
Regardez les bonnets rouges, les cotaxes. Enfin, les cotaxes, pourquoi? Parce qu'il y a eu des blocages, il y a même eu des exactions sur les autoroutes, et le gouvernement a cédé. Les gilets jaunes, le gouvernement a cédé, on a retiré la taxe carbone, et on a fait un chèque de 10 milliards pour les gilets jaunes. À chaque fois, le gouvernement recule quand il y a blocage. Et c'est une faiblesse hein, politique, mais c'est comme ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui, si tu ne bloques pas, tu ne fais pas entendre.
C'est le seul moyen.
Si tu ne fais pas des choses spectaculaires, qui emmerdent un peu les gens, tu ne te fais pas entendre, parce que les politiques ne réagissent que lorsqu'il y a du blocage. Moi, je suis d'accord, le modèle allemand, mais le modèle allemand, il faut être deux, il faut aussi que les politiques jouent le jeu. Or, là, regardez la réforme des retraites, il n'y a pas de négociation, on appelle ça une concertation. C'est-à-dire qu'on reçoit les gens, on leur dit écoutez, on va faire comme ça. Voilà. Bon, ah bah vous n'êtes pas d'accord, bah tant pis, mais nous, on va faire comme ça. C'est pas de la négociation. La négociation, c'est on se met autour de la table, on a 10 milliards d'euros à trouver pour les retraites, à peu près. Comment on fait? Nous, on voudrait plutôt faire ça, vous, qu'en pensez-vous? Et après, on négocie, on prend 6 mois, 1 an, 2 ans, et au bout de 2 ans, on se donne un objectif.
Ah, mais ça, on ne peut être un objectif là-dessus.
On se met d'accord pour trouver une solution, et puis ceux qui ne sont pas d'accord, ils sortent du jeu. Et d'ailleurs, il y a eu des réformes de retraite qui ont été faite avec la CFDT, par exemple la dernière, celle de François Hollande. Pourquoi elle est passée aussi? Parce que la CFDT était d'accord. Il jouait sur la durée de cotisation, les 43 ans au lieu de l'âge légal, et c'est passé. Donc sincèrement, moi je suis pas pour le blocage, et malheureusement en France.
Mais Olivier, tu peux reconnaître, je vais laisser le docteur Marty parler, mais tu peux reconnaître que par exemple à la SNCF, il y a au moins une grève par an.
Bien sûr. Mais les contrôleurs vont obtenir gain de cause.
Si ce n'est plusieurs par an.
Oui, mais les contrôleurs vont obtenir gain de cause.
C'est pas normal.
Oui, mais ils vont obtenir gain de cause.
Moi, je serai la direction, je lâcherai rien.
Mais la direction, je vous le dis, je vous le signe, la direction.
Eh ben, elle devrait pas.
Parce qu'elle a très peur de ce mouvement. C'est un mouvement qui est parti de la base. Les syndicats se sont raccrochés au wagon, si j'ose dire. Mais c'est un gouvernement. Et donc, la direction va céder.
Jérôme.
Moi, je suis président d'un syndicat, donc je ne vais pas te dire que je suis contre le droit de grève. Mais d'ailleurs, nous, on a fait 2 jours de grève la semaine dernière, vous le savez, on se dirige probablement vers une semaine.
Et vous n'avez rien le tenu.
Dans quelques temps. Sauf que la dernière grève nationale que nous avions fait, c'était en 2015, et celle avant, c'était en 2002. Donc en gros, on fait grève tous les 10 ans. Quoi. Et en face, là, on a des structures qui font grève plusieurs fois par an. Moi, je crois fondamentalement au dialogue social. Le problème, c'est que ce gouvernement n'est pas quand même... Enfin, c'est pas ce qui caractérise le plus ce gouvernement, quoi, qui a tendance à shunter les corps intermédiaires que sont les syndicats et qui donc se retrouve systématiquement face à la rue. Parce que quand tu shuntes les syndicats, tu as la rue. Là, ce qu'on voit, c'est que...
Quand tu cours,
quand tu shuntes les syndicats, tu as la rue.
Le verbe...
Shunter.
Lui aussi, il va postuler
à
l'Académie des Arts pour avoir...
C'est du patois.
La problématique qu'on a, shunt, cherchera S-H-U-N-T.
En fait, ça vient de... Quand tu shuntes un disque...
Quand tu squeezes.
Voilà, squeeze. Tu fais disparaître progressivement la musique. Quand tu shuntes les syndicats, c'est que petit à petit, tu te passes de... Voilà. Mais de manière
Après ce cours de sémantique, là on vient de nous dire que c'est on remettait le couvert sur la réforme des retraites.
Ouais.
On a des syndicats qui nous annoncent des grèves là pendant les fêtes, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas la place à la discussion.
Mais y a pas
c'est
de
très
discussion.
Court le temps qu'ils définissent. Est très court.
Il n'y a pas de discussion.
Non, mais si on avait un gouvernement digne de ce nom, laissait la place à la discussion. À ce moment-là, dès l'instant, parce que quand même, quand tu annonces une grève, tu fais tout pour ne pas la faire. C'est-à-dire, tu vas discuter. Tu vas essayer d'argumenter.
Elle
est déjà écrite. Et c'est ce qu'on vit, nous, en médecine. On est en négociation conventionnelle et apparemment, tout est déjà décidé d'avance, tout est calé, etc. Donc c'est pour ça qu'on va à la grève. Mais là, la seule différence, c'est que on a des syndicats qui sont relativement jusqu'au boutistes et qui sont en quelque sorte forts de leur faiblesse, quoi. Parce que si on avait, comme dans certains Länder allemands, un syndicalisme obligatoire, forcément, on diluerait un petit peu.
Mais qui a envie de s'adhérer à la CGT,
Politique paritaire.
Oui, mais voilà, c'est la CGT. Le syndicat donne envie aussi.
Non, mais en fait, moi j'avais mis 5 points. Donc, le prix de la vie, tu vois. Non, mais le prix de la vie. Les manifs, ça donne plus rien aujourd'hui. Tu manifestes, c'est de plus en plus violent. Oui. Tu te fais gazer. Enfin, c'est violent des deux côtés, hein, je le dis à chaque fois. Les syndicats qui sont incapables aussi d'imposer quelque chose au gouvernement et de se mettre réellement. Il y a toujours un qui trahit l'autre. Il n'y a pas de front des syndicats. Et encore une fois, je l'ai mis en gros, gouvernement qui n'est pas du tout enclin à négocier avec qui que ce soit. Tu vois? Donc, à un moment donné, c'est un cocktail Molotov qui oblige.
Mais en même temps.
Ça fait plaisir à personne de bloquer, de faire la grève, tout ça, etc.
Je sais bien.
Donc, les gens qui font la grève, pour la plupart, ne sont pas payés. Ça entraîne des difficultés aussi dans leur domicile. Ils sont mal vus par les Français. Ils se font insulter toute la journée. Donc, si. Crois-moi, que les salariés, s'ils arrivaient à négocier en amont avec leurs entreprises, avec les politiques, il n'y a personne qui bloquerait le pays, il n'y a personne qui emmerderait personne, et ils ne s'amuseraient pas à avoir une mauvaise presse. C'est avant tout parce qu'en face, il y a une situation de blocage.
Eh bien, justement, est-ce que bloquer aujourd'hui, c'est le seul moyen de se faire entendre? C'est l'équipe oui, Kauter et Olivier, face à l'équipe non, Jérôme et Charles. C'est vous qui arbitrez le duel. Alors, bloquer, le seul moyen de se faire entendre, notamment, alors c'est un mode d'action général, mais là bientôt pour contester la réforme des retraites, c'est un peu la stratégie aujourd'hui qui est établie en France. Oui ou non, faut-il bloquer pour se faire entendre? Équipe oui, équipe non. Résultat dans 3 minutes.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Alors, est-ce que le blocage, c'est le seul mode d'action aujourd'hui pour obtenir quelque chose, avoir ses revendications satisfaites? C'est la question, et c'est le GG 7 et match. C'est la question qu'on se pose avant d'écouter Nicolas du Vaucluse, un fidèle des GG, là, au 32-16. Une équipe dit oui, on peut bloquer, c'est comme ça que ça se passe maintenant, on peut le regretter, mais c'est comme ça qu'a outé Olivier. Non, pour Jérôme et Charles. Alors attention, est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'une équipe est vraiment, a vraiment l'avantage? On regarde, c'est parti. On est à 51-49. Non, le mode de blocage n'est pas le seul moyen de se faire entendre, mais c'est très proche, hein. 51-49. Nicolas veut en parler avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Ça peut encore bouger, Nicolas. Et vous, quelle est votre équipe? Alors l'équipe oui ou l'équipe non?
Comme le pourcentage, je suis un peu placé du côté de Charles. Il faut pas bloquer les Français. La différence,
d'accord,
elle est là.
D'accord.
Faut pas bloquer les Français, parce que les Français, je pense qu'ils ont envie qu'il y ait ce mouvement, mais ils ont pas envie d'être emmerdés pour pouvoir aller travailler. Qu'ils aillent bloquer les préfectures, qu'ils aillent bloquer les ministères, qu'ils aillent bloquer les personnes qui décident, ouais, et qu'ils les bloquent mais à la semaine, c'est-à-dire, ouais, qu'il y a des roulements, ouais, devant et compagnie, on peut schématiser ça, mais qu'ils bloquent, ouais, pas.
Mais bloquer un ministère,
la police va venir en 3 minutes.
C'est compliqué.
Non, mais surtout, déjà, ça serait compliqué, parce que je vous conseille d'aller dans le quartier du ministère, allez vous amuser à bloquer quelque chose, Nicolas, et puis surtout, ça sera pas très médiatisé. Vous voyez, c'est pas spectaculaire.
Je pense qu'il peut avoir beaucoup plus au niveau réceptif, au niveau visuel. Ça peut montrer beaucoup.
Regardez dans les raffineries. Regardez dans les raffineries. C'est plus spectaculaire de bloquer l'essence des Français, hein, pour obtenir gain de cause. Et d'ailleurs, ils ont obtenu gain de cause.
Monsieur, vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de manifs.
Je suis d'accord, ils ont obtenu gain de cause, mais il n'y a que eux qui ont obtenu gain de cause.
Ils ont fait ça pour eux, ils n'ont pas fait ça pour nous.
De tout le monde.
Il faut que tout le monde se mobilise.
Tout le monde n'est pas interprofessionnel,
en fait. Pas général, ça n'existe pas la grève générale, c'est un fantasme. C'est une grève interprofessionnelle, ouais, mais... et pour avoir, notamment sur le logement et les écoles, beaucoup manifesté, essayé de bloquer les préfectures, etc., on se fait gazer, ouais, et lever par la police en 3 minutes 30, monsieur.
Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la réforme des retraites concerne tout le monde. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, comme moi, ça n'a pas changé grand-chose à leur vie, parce que quand on a fait des études, qu'on a commencé à bosser vers 24-25 ans, de toute manière, on partait déjà pour avoir une retraite à taux plein à 65, voire à 67 ans. Donc mettre la retraite à 65 ans, ça change pas. La retraite à 65 ans, ça va changer pour ceux qui ont commencé tôt, hein, ont commencé vers 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui font des métiers pénibles, qui font des métiers qui n'ont pas été choisis, et pour eux, ça va vraiment changer la donne. Vous avez, d'ailleurs, cette réforme des retraites, elle est faite pour les retraités, d'ailleurs, qui ne sont pas concernés, et pour les cadres supérieurs qui diront oui, bon, ben, je vais bosser un an de plus ou deux, ça changera pas ma vie. Vous voyez ? Donc attention, cette réforme, elle ne concerne pas tout le monde, elle ne sera pas impactante pour tout le monde.
Pas impactante de la même manière.
De la même manière. Du coup, attendez, Nicolas, parce que vous avez entendu déjà les syndicats dire nous, en janvier, on va y aller, on va être en première ligne. Du coup, ça vous agace, ça vous énerve, vous dites c'est normal.
Moi, si les syndicats bloquent les Français, je ne soutiendrai pas.
D'accord. Voilà.
Je ne soutiendrai pas. Il faut trouver d'autres
modes d'action, vous dites.
Mais moi, je pense qu'il faut demander d'autres modes d'action. Quand il y a 2 mois, ils ont bloqué les raffineries.
Il y en a pas.
C'était pour eux, c'était leur gain.
Ouais, ils ont bloqué les Français, là.
Oui, ils ont bloqué les Français. Ils ont bloqué, ils ont emmerdé tout le monde. Moi, je suis jardinier, il fallait que je jongle avec mes billets.
Oui, mais reconnaissez qu'ils ont obtenu gain de cause. C'est ça qui est pervers. C'est que s'ils n'avaient pas bloqué, ils n'auraient rien obtenu.
Quel autre moyen pour obtenir gain de cause?
Ils ont obtenu gain de cause par rapport à eux, par rapport à leur patron. Là, c'est à qui on doit obtenir gain de cause? Par rapport aux personnes qui nous gouvernent.
Oui, mais si vous allez bloquer quoi? Le ministère du Travail?
Bloquer les ministères, les préfectures.
Mais ça veut dire quoi? Excusez-moi.
Ça change rien,
moi,
en fait.
Ça change rien, parce qu'on va juste s'apercevoir qu'on peut très bien vivre sans ces gens.
Oui, vous bloquez des bureaux.
C'est ça le problème, c'est que si on bloque les ministères, on va s'apercevoir qu'en fait, les ministères ne savent pas grand-chose.
Les GG, le lundi, les gens, ils vont travailler.
Oui.
Les syndicats, au lieu d'aller bloquer la rue, ils vont se mettre devant le portail du ministère.
Mais à quoi ça sert ?
Bloquer la rue du ministère on prend en otage. Au lieu de prendre en otage les Français...
Mais non, vous allez prendre les citoyens qui vont travailler, qui vont se retrouver bloqués dans les embouteillages. Pareil, en fait, c'est une autre prise d'otage. Je considère que le droit de grève, c'est pas une prise d'otage. Mais si vous bloquez une rue, d'accord ? Hier, par exemple, j'avais une réunion derrière le Conseil constitutionnel, ils ont fermé la ligne... Palais du Louvre. Donc je me retrouve Uber, ils viennent pas, voilà, la 7.
La 7.
Donc moi, le soir, quand je termine à minuit, je crois que le métro est réouvert. Il n'est pas réouvert parce qu'en fait, il y a des tentes, je crois que c'est des tentes de migrants, devant le Conseil constitutionnel, en fait.
Conseil d'État. Ouais.
Donc en fait, le Conseil d'État. Donc en fait, si vous bloquez la rue devant un ministère, quel qu'il soit, c'est les automobilistes parisiens qui vont en pâtir, ça va encore agrandir.
Mais là, non, mais surtout, le pays, c'est tout le monde.
Non, mais surtout, excusez-moi, mais
si tu veux, tu bloques quand même, en fait. D'une manière ou d'une autre, je vais juste terminer après, tu bloques quand même. Et moi, je vous demande, mon cher Michael, quel mode de pression vous auriez pour.
Le stand-all.
Oui, mais Kauter, tu fais comme s'il n'y avait rien à réformer. Moi, je ne comprends pas.
J'ai pas dit ça.
Je ne comprends pas. Je suis désolé.
J'ai jamais dit ça.
Je suis désolé. Vous ne
pouvez pas dire ce que je
veux dire. Moi, je connais le cas de gens retraités de la police qui ont été retraités à 55 ans et qui ont une pension de 2 500 € par mois. Bah, je suis désolé, ce n'est pas normal. Ils pourraient tout à fait bosser jusqu'à 65, pas forcément sur le terrain, mais dans les bureaux, etc., les administrations, avant de toucher cette retraite qui est, je trouve, assez confortable pour une retraite de policier de 2 500 € par mois.
Tu trouves? Donc, vu 2500, leur métier au quotidien, tu trouves que
2 500 € par mois, je suis désolé, je trouve que c'est correct. Si ta femme a la même chose, ça va.
Ils n'ont pas un métier simple, quoi.
Mais tu vois, c'est marrant, toi, c'est toujours l'inertie. C'est jamais, si tu veux. Attends, le pays donne à quelqu'un. Je prends l'exemple de ce policier que je connais, que je ne citerai pas. Il part à la retraite à 55 ans. À partir de ses 55 ans, la France lui donne 2 500 € net tous les mois. Et toi, tu vas encore trouver que c'est pas suffisamment, que ça va pas,
j'ai pas dit ça.
Bah, tout de suite, tu dis, moi je dis que c'est bien, toi tu dis non, son métier est pénible, alors quoi, il faudrait 3 000 €.
Non, mais
tu vois ton raisonnement. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que, Kauter, moi je trouve qu'il faut faire des réformes dans ce pays. Je constate d'ailleurs que les gens, aux dernières nouvelles, n'ont pas voté ni pour Mélenchon, ni pour Marine Le Pen, qui était plutôt porteur de programmes inerte sur le plan de la réforme. Ils ont voté Macron qui portait cette mesure dans son programme. Donc il y a un moment donné, le suffrage universel. Et d'ailleurs, c'était même la seule réforme qu'il promettait. Absolument. Donc moi déjà, j'aimerais bien qu'on mette tout le monde sur un plan d'égalité, sur l'âge de départ, sur la durée de cotisation. Je voudrais que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, privé, public, etc. Et je trouve qu'il faut faire des réformes sans qu'à chaque fois les gens se retrouvent pris en otage.
Il y a des pénibilités au travail, mon cher. Je trouve que policiers, aide ménagère, infirmière.
Mais avocat, tu crois que c'est pas pénible?
C'est moins pénible que policier.
Eh ben, viens être avocat, tu verras. Avocat pénaliste, c'est pas pénible. Le tour des tôles le samedi matin, c'est pas pénible. Les audiences jusqu'à 1h du matin, c'est pas pénible.
C'est pas aussi pénible.
Excuse-moi, on n'est pas aux 35 heures. On n'est pas aux 35 heures. Et pourtant, on n'a pas la retraite à 55 ans.
Mais tu me laisses pas parler. Donc, oui, il y a de la pénibilité.
La plupart des métiers sont pénibles. Je suis désolé.
Regarde le mien, là, si vous écoutez comme ça. Si c'est pas pénible,
je suis désolé,
il y a des journalistes
qui sont sur le terrain, des journalistes qui sont en horaire décalé, ils peuvent estimer que c'est pénible.
Bonjour Chris. Attention.
Les gens qui font les matinales, etc.
Oui. Bah oui. Attendez, Chris.
Non, mais c'est vrai, chaque métier a ses pénibilités.
S'il vous plaît, mettez bien le téléphone parce qu'on a du mal à vous entendre, Chris, s'il vous plaît.
Attendez. Voilà. Vous m'entendez mieux?
Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que bloquer, c'est le seul moyen d'action, oui ou non?
Alors, pour moi, oui. Clairement, il faut bloquer parce que le gouvernement, quand on ne bloque pas, quand on n'agit pas clairement en bloquant, il n'écoute pas. Juste manifester en disant pas content, ils n'en ont strictement rien à faire. Il faut bloquer, il faut un moyen de pression. Juste s'exprimer, ça ne sert plus à rien parce qu'ils n'écoutent pas. Ils vont vous vendre des mesures sortir du chapeau, qu'ils ne savent même pas comment ils vont les financer. Finalement, le peu qu'ils vont donner, ils vont vous reprendre derrière.
Donc un rapport de force.
Il faut bloquer. Rapport de force. Sans forcément dans la violence, mais juste être là et dire non, on fait bloc et on ne bougera pas.
Quelles que soient les conséquences pour les secteurs d'activité, pour l'économie du pays, Chris.
Mais bien sûr, parce que même si on ne fait rien, même si on fait que s'exprimer qu'on n'est pas content, il y a quand même des conséquences pour l'économie du pays. Parce qu'on voit bien qu'ils n'agissent pas et que finalement, tout ce qu'ils font, rien ne s'améliore. Tout augmente. Donc, elles sont où les vraies mesures?
Voilà. En fait, il n'y a pas
de vraies mesures.
Tu te sers du blocage surtout pour montrer que tu existes. Parce que quand tu as une capacité de nuisance, c'est que tu existes, c'est que tu retentis, tu as du poids sur la population, quoi. C'est pour ça que la SNCF le fait, que les routiers le font. Après, il y a des professions qui ne peuvent pas se permettre la grève, qui n'y arrivent pas, qui peuvent pas, et pourtant qui sont
Bah, les médecins
sont fondamentaux. Ben, nous, quand on fait grève, je vous t'ai dit, c'est une fois tous les 10 ans. Oui. Il faut vraiment que ça aille mal pour qu'on le fasse. Oui, c'est pour ça que le gouvernement ferait bien d'y faire attention. Mais les boulangers, les bouchers, les artisans, les PME, etc.
Si le boulanger fait grève,
ils peuvent pas faire grève. Ouais. Ils y arrivent pas, quoi. Ouais. Ils peuvent pas.
Mais
ils peuvent pas parce qu'ils perdent trop d'argent et ils
le faisaient.
Donc, c'est
ça.
Donc, si tu veux, moi, je t'entends quand tu parles de pénibilité, qu'à hauteur, etc. Je t'entends. Mais il y a des professions dans ce pays qui sont à 80-90 heures par semaine et qui s'y font 3 jours de grève, ils plantent leur affaire.
Oui, mais c'est pas pour ça.
C'est quand même la différence.
C'est ça qui est pervers, c'est que justement parce qu'ils font pas grève, on ne les écoute pas.
Mais bien sûr.
Et qu'on peut faire passer tout ce qu'on veut.
Chris, c'est vous qui aurez conclu la discussion.
Merci Chris.
C'est vous qui aurez conclu la discussion, Chris Dalkirch, dans le Haut-Rhin.
L'Alsace.
Oui, oui. Il y a des chances, effectivement. On va regarder le résultat de la consultation, grève.
Serré, hein.
Pour la réforme des retraites. Oui, non. Est-ce que bloquer, c'est le seul moyen d'action pour obtenir gain de cause? Attention. C'est parti. C'est fini. 52-48. Vous avez même gagné un point. 52-48.
On a inversé le match.
On a inversé.
Ah oui, c'est vrai. C'était 49-51. Ouais, bravo, félicitations.
À cause de Jérôme qui avait arguments très faibles. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais Jérôme, il était. À chaque fois que je gagnais un point, il nous en faisait perdre.
Bien sûr.
Ça, c'est les coéquipiers.
Le débat continue.
Terrible.
Sur RMC et RMC Story, avec celle qui aussi fête son anniversaire.
Bon anniversaire, Estelle.
Merci.
Estelle Denis, bravo, bon anniversaire.
Mais merci. On va quand même débattre. Hein. Aujourd'hui,
est-ce
dans
que tu
Estelle
fais un
Midi...
débat sur ton anniversaire?
Non, je.
25 ans.
Les années qui passent, ça va, ça te.
Non. Bah, ça me... Je préférerais qu'elle passe dans l'autre sens, tu vois.
Bien sûr.
Mais bon, qu'est-ce que
c'est
tu
fataliste.
Veux. Exactement, de toute façon, voilà. Il faut bien en passer par là.
Bon.
On va parler du projet de loi immigration. Nous, créer un titre de séjour provisoire pour les étrangers qui travaillent dans les secteurs en tension. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? On vous attend au 32-16. On parlera également de Sandrine Rousseau. Tout à l'heure, chez Apolline, elle a dit qu'il fallait éteindre les aéroports et les supermarchés pour économiser de l'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec elle? Et puis enfin.
Elle peut éteindre son cerveau, hein, des fois, en mode pause, parce qu'elle fatigue.
Mais écoutez, je ne sais pas. Enfin, je pense que pour les hypermarchés, les chambres froides, tout ça, ça va pas être pratique.
Et les aéroports, bien sûr, pas de problème de sécurité de les fermer comme
non.
ça. Les,
et puis,
sûr,
et puis c'est vrai que les aéroports, c'est juste pour aller aux Seychelles. Il n'y a pas de problème de fret.
Non, pas du tout.
Enfin bon, écoutez, on en débattra quand même à 13h, mais je pense que votre opinion est faite. Et puis enfin, 45% des célibataires seraient prêts à se mettre en couple avec leur meilleur ami. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou est-ce que c'est un pis-aller? Là encore, on attend vos réactions, mais dites-nous, tiens, comment ça se passe si vous êtes mis avec votre meilleur ami et que ça s'est bien passé ou au contraire que ça a été un cauchemar? Témoignage, bien sûr, ce sera à 14h au 32-16. Ça vous est jamais arrivé, Alain?
Non.
Il
bonne,
a pas
émission, bonne émission avec pas Estelle
oui, c'est vrai.
Et rendez-vous demain 9h.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.